This is the Humans Link Audio Experience. The greatest.
Bonjour à toutes et à tous, ici Valentin French de humanslink.com et je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle pause café en ce lundi. Ici à Montréal, il est 11h. J'espère que vous allez tous très bien. Je vous rappelle, on revient tous les jours de la semaine avec un live post-café sur Facebook, mais aussi sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à partager la publication si vous souhaitez, puis même à vous abonner sur la chaîne YouTube. L'objectif de ce live et de Humans Link est de créer les organisations dont l'humanité a besoin. Et ce rendez-vous nous permet de garder le lien, mais aussi d'encourager la solidarité, l'entraide. Et mon invité d'aujourd'hui est un biologiste français, professeur à l'université Pierre et Marie Curie, spécialisé en physiologie environnementale. Il a également présidé le Musée national d'histoire naturelle pendant 7 ans, mais également le conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité sous le mandat de Ségolène Royal. Merci de dire bonjour à Gilles Boeuf. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Comment vas-tu?
Moi déjà.
Oui, bonsoir. Je crois que tu nous parles. Tu es où en ce moment?
Je suis au bord du lac de Bordeaux, dans un joli appartement avec une grande terrasse, avec plein d'oiseaux autour. Là, j'étais un tout petit peu en retard parce que j'étais allé voir les oiseaux.
Ouais.
Comme ce n'est pas une grippe aviaire, ils sont ravis. Ils nous regardent, en fait.
C'est ça, la nature s'éclate en ce moment. Donc, c'est des bonnes conditions pour ce confinement.
Oui, pour moi, oui. Parce que, en fait, je fais mes cours à Sciences Po Paris. J'ai fait tous mes cours normalement, comme on le fait là, hein, sur différentes plateformes de communication. Tout à l'heure, là, avant d'être avec vous, ce matin, à 11h heure française, j'étais 1h15 à l'Assemblée nationale devant une série de députés sur le thème de « Quelle ruralité pour demain, pour le jour d'après ?» Et après, 2 heures après, avec un autre groupe, là, c'était plutôt un groupe de réflexion avec les agences de développement, en fait, et puis l'agenda 21, sur justement notre vision du jour d'après. Il y avait un scientifique écologue, il y avait une politique… Il y avait ensuite un chef d'entreprise qui était publiciste et puis un jeune de mouvement écolo du Extinction Rebellion. Et c'était une très jolie discussion. Voilà.
Super, mais je te remercie chaleureusement d'avoir répondu à l'appel de Jean-Jacques French et de Humans Link. Ça nous fait plaisir de pouvoir partager une pause café, une pause thé peut-être pour toi aujourd'hui. C'est chouette
une pause au minéral. Avec des bulles, quand même.
Avec des bulles. Dites-nous en commentaire d'où est-ce que vous nous suivez, s'il vous plaît. Je vois qu'il y a plusieurs personnes, plusieurs d'entre vous qui êtes connectés. Je salue Dominique Vénéré qui est ici. Bonjour à Lily. Je salue aussi Régine qui est là. Et également l'effet papillon. Bonjour Humans Link et Gilles Boeuf. Sous aucun doute, un grand moment à venir. De jolis battements d'ailes papillon en perspective. Merci. Bon, mais super. D'ailleurs, Gilles, il y a un sujet dont on parle, c'est le confinement, c'est cette pandémie. Toi, le confinement, comment ça a impacté ton quotidien personnellement, mais aussi professionnellement?
Comme tout le monde, hein, c'est extrêmement fort, hein, c'est une révolution, d'autant plus qu'on ne s'y est pas du tout préparé, et nous ne l'avions pas dit. Hein, alors, je vais vous raconter une anecdote. On est le 14 mars à Bordeaux, et je dis à mon ami Françoise, tiens, ce soir, il y a longtemps qu'on n'a pas fait ça, j'étais beaucoup à Paris avant. J'étais allé en Guadeloupe quelques semaines avant, d'ailleurs j'avais rencontré Jean-Jacques. Allez, on se fait, entre guillemets, un bon restaurant et on va dans un bon resto de Bordeaux. Et il est 22h30, on termine et il vient nous dire, le patron, je ne sais pas comment ça va se passer, mais dans une demi-heure, tous les restaurants de France sont fermés. Alors. Et on ne sait pas pour combien de temps. Donc c'était très fort. Hein. Et donc le lendemain, le 16, le président Macron annonce effectivement l'entrée en confinement. Le lendemain à midi, il y a eu cette meute de Parisiens qui s'est dépêchée d'aller s'installer à la périphérie française. On peut en discuter, ça a créé pas mal de soucis. Côte, vers la montagne un petit peu. Et puis vraiment, le 17, c'était fini. Donc, moi, ça m'a coupé tous mes déplacements classiques. Et franchement, 2 mois après, j'en suis ravi. Ça ne m'était jamais arrivé de ne pas me lever un matin à 5 heures pour aller prendre un train ou un avion. Et j'ai apprécié énormément. Alors, moi qui ne dors pas beaucoup, ça m'a permis en fait de m'organiser différemment. Alors, j'ai découvert bien sûr les plateformes de communication. Hein. Je ne connaissais pas Zoom par exemple.
Okay.
On connaissait Teams depuis longtemps. Skype aussi, évidemment, ça marchait bien. Et puis surtout, je n'ai pas coupé mes activités. J'ai continué tous mes cours à Sciences Po Paris. J'ai pu les faire jusqu'au bout. En train de corriger les copies en ce moment. Et surtout, les APM que connaît bien Jean-Jacques, puisque lui est un animateur APM. Donc, c'est un système, en fait, d'organisation d'entreprise pour former des chefs d'entreprise à tout type de questions. Et j'étais allé en Guadeloupe et Martinique moins d'un mois avant. Un mois après, on ne pouvait pas se connaître. Hein. Et on discute sur des grands sujets d'actualité qui les concernent dans leur métier d'humain et de chef d'entreprise. Et ben, j'en ai fait 6 depuis, tout en virtuel. Alors, il a fallu qu'on s'habitue un petit peu. Donc, là-dessus, ça n'a pas changé grand-chose. Ensuite, j'avais énormément de choses à écrire. Donc, j'ai beaucoup écrit. Et puis, j'étais très sollicité par les médias. Hein. J'ai dû faire des papiers dans une dizaine de médias dans le Sud-Ouest, des tribunes dans Le Monde, beaucoup avec Libé. J'étais également… On a fait des grandes émissions. 2 fois la matinale de France Culture, c'est très diffusé. On a fait un téléphone sonne le dimanche avant. Donc, c'est vrai que beaucoup, beaucoup de communication comme ça sur ma vision du jour d'après. Et puis, donc, finalement, ça a accéléré certaines choses. Donc, j'ai beaucoup écrit, pas un long livre. Je suis sur des préfaces de livres qui étaient en retard. Elles sont faites, c'est fini, elles sont parties. On a fait un duo avec un chercheur italien dans le Corriere della Sera en Italie sur quel est le rôle de la science dans la résolution de nos problèmes. Donc, on alterne. Hein. Une fois, c'est lui, une fois, c'est moi. Et on échange une fois par semaine. C'est assez intéressant. Avec l'ambassade de France à Rome. Qu'est-ce qu'on a fait? Beaucoup, beaucoup de textes divers et variés. On m'a demandé une revue, une appréciation dans différents médias. Et puis sinon, j'écris beaucoup et puis aussi, on discute. Je suis en relation très étroite avec mes étudiants aussi, ça marche bien. Quel est le rôle d'une grande maison comme le Muséum d'Histoire Naturelle? Comment les gens de Sciences Po, qui s'occupaient très peu des questions environnementales, commencent à rentrer ça dans leur cursus de formation? J'ai pas le temps de m'ennuyer. Alors, les choses nouvelles, c'est que je mange tous les jours à la maison. Donc, on se partage le boulot. Françoise fait beaucoup plus la cuisine. Elle nous fait du pain tous les jours. Excellent. Moi, je m'occupe lave-vaisselle et machine à laver. Ça, c'est mon boulot. Donc, on s'est partagé le travail. Bon, on a un gros appartement. Chacun a sa place pour travailler en confinement et en télétravail. Tous les jours, au début, j'y tenais beaucoup. J'ai fait beaucoup de vélo au début. Puis après, ça nous a été interdit. Dans un rayon de 1 km.
1 km, oui.
Oui. Donc, ce que je fais, j'ai un circuit où je fais effectivement 4 km au sein de mon kilomètre, 5 fois, ça me fait 20 km. Hein. Tous les jours, soit vélo, soit marche à pied. Beaucoup de photos d'oiseaux sur les rives du lac, on y va à pied. Hein. Donc, on s'adaptait à la situation. Donc, ce qui a profondément changé pour moi, c'est le rythme de travail et surtout l'arrêt total des déplacements, en dehors. Et ça, j'apprécie quand même beaucoup. Hein.
Donc oui, c'est ce que tu disais au départ que finalement, 2 mois après, le fait que de plus te lever tôt le matin pour aller forcément prendre un train, un avion, etc., mais de quand même continuer ton activité professionnelle avec Sciences Po, avec APM, avec d'autres groupes aussi, que ce soit en visio. Vraiment, tu es plutôt satisfait de ça?
Très. Pour moi, oui. C'est un confinement heureux. On s'entend super bien, donc évidemment, ça a été un moment, elle est ravie. Hein. Elle m'en permanence tout le temps, elle est super contente. Elle télétravaille de son côté. Non, ça se passe vraiment super bien. J'ai vu qu'il y avait 46% des Français qui trouvaient ça bien. Le reste, il y a des catastrophes. Hein. Quand on voit comment ça se passe, je suppose que c'est pareil aux Antilles, mais les massacres de femmes et d'enfants en France, hein, c'est plusieurs par jour. Hein. Ça, c'est des choses qu'on a totalement sous-estimées. Maltraitance des femmes, maltraitance des enfants. Et puis surtout, ce que je touche du doigt, c'est l'inégalité sociale pour les enfants au niveau de l'accès à l'école. J'ai 3 petites filles qui sont auprès du mont Canigou dans les Pyrénées. Un jour sur deux, on fait les devoirs, les SVT, les mathématiques, ça se passe très bien, mais elles n'ont pas toutes un grand-père capable de faire les devoirs de mathématiques après la seconde et puis de faire les sciences de la vie et de la terre. Mmh. Et là, on est en train de creuser un fossé gigantesque. Et le troisième problème, c'est la misère. Hein. Moi, j'ai des étudiants à moi là, qui sont en détresse sociale complète. Ils ne peuvent plus manger. J'étais avec le maire de Pantin, donc la banlieue de Paris, la banlieue Est. Il me disait l'autre jour, toujours en virtuel, il me disait « Les soupes populaires, on n'a jamais eu autant de monde. Les restos du cœur. » J'ai des étudiants qui n'ont plus rien. Ils ne savent même pas comment ils vont payer leur loyer à la fin du mois parce que ils faisaient des petits boulots. Au noir, pas au noir. Dans les îles, c'est connu, hein, Guadeloupe et Martinique. Ils étaient barman, ils étaient dans un resto, ils livraient des pizzas. Tout ça s'est totalement écroulé, en fait.
C'est vrai que cette pandémie a mis en…
Du monde rural. Hein.
C'est vrai que ça a exacerbé, ça a mis peut-être une loupe sur plusieurs problèmes. Et je sais que tu as aussi récemment parlé de peut-être la liaison… Enfin, pourquoi, en fait, on va penser parfois qu'il y a une liaison dangereuse entre les scientifiques et le gouvernement, ou plutôt la science et le pouvoir?
Bah ça, on l'a vu. Bah, si vous voulez, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est vrai, c'est que les gouvernements en place, pratiquement tous, hein, dans le monde entier, ont fait appel à des comités scientifiques. Alors, ça amène deux remarques de ma part. Un, comment on le monte? Ce que je fais le reproche à la France, c'est le comité français exclusivement constitué de médecins. Alors, évidemment, qu'il y ait des médecins, on est tout à fait d'accord, mais moi, j'aurais bien voulu avec un écologue, j'aurais bien voulu avec un sociologue, j'aurais bien voulu avec un philosophe. Et ça, on ne l'a pas fait. Les pays qui l'ont fait, hein, qui sortent beaucoup mieux que nous. Ensuite, est-ce qu'ils sont tout le temps écoutés? Non. De toute façon, il faut bien voir quel est le rôle du scientifique, c'est d'éclairer avec l'état de l'art à l'instant précis un niveau de connaissance. Et là, les gens ne se sont pas habitués du tout à ce qu'est le monde scientifique. Ça veut dire que, bah, on doute tout le temps. Hein, on dit, oui, quelle est la culture de l'impact? Il faudrait faire ça par rapport à ça. Ça serait mieux comme ça. Mais c'est jamais certain. Et donc, on a vu sur les réseaux sociaux se monter des écoles. Et ça, c'est terrible. Aujourd'hui, on est dans une situation dramatique en France. Hein. Certains scientifiques qui sont prêtés ou mal prêtés, il y a eu le docteur Raoult à Marseille qui est monté avec son hydroxyde de chloroquine. À mon avis, moi, depuis le début, il m'était sympathique. Donc, je dis, ben, on l'essaye, son produit. Bon, mais c'est parti sur un problème terrible d'opposition formelle. Parce qu'on l'a dit, non, on ne l'utilise pas. Testons-le. S'il y a un problème, sous contrôle médical, on est d'accord, on y va. Après, ça a été la nicotine. Bon, après, ça a été les groupes sanguins. Après, ça a été, ben non, c'est pas un virus, c'est une bactérie. Après, ça a été, le virus a été inventé par un laboratoire chinois. Après, ça a été, le virus a été fait par l'Institut Pasteur. C'est plus possible. Et c'est là que le monde politique avec le monde scientifique, il ne peut pas, le monde scientifique ne pas intervenir. Il faut écouter beaucoup plus que ce qu'on faisait avant. Je suis entièrement d'accord. Ceci étant dit, il faut trouver autre chose. C'est le rôle du politique d'être capable de trancher entre différentes orientations proposées par un monde scientifique. Et dans le monde scientifique, on a vu des gens s'opposer scientifiques, hein, qui sortaient de la controverse, hein, et virer à la polémique, c'est pas bon non plus. Donc vous voyez, c'est autant la controverse scientifique est utile au débat public, pas la polémique. Donc là, compliqué. Puis alors après, les réseaux sociaux ont été d'un côté merveilleusement chouettes pour porter des choses, discuter. Ce qu'on fait là, il y en a
Ouais,
un à
tout à fait.
Montréal, il y en a un en Guadeloupe et puis il y en a un à Bordeaux. Mais à l'inverse, il y a des choses terribles de rejet de l'autre, d'insultes, de violences incroyables. Hein. On voit des infirmières qui sont menacées parce qu'elles risquent de ramener le virus à la maison quand elles sont passées à la journée à l'hôpital à s'occuper de gens hyper malades. Mais surtout, ce qui ressort de tout ça, et là les scientifiques l'avaient dit à l'avance, hein, c'est que notre impréparation totale. Et ça veut dire que pour moi, aujourd'hui, ce que paye la France, l'Italie, l'Espagne, la Grande-Bretagne, hein, et puis les États-Unis, le Brésil aussi, hein, c'est l'impréparation. Et là, vraiment, je réagis fortement. On l'avait dit, hein, depuis, ça fait 20 ans qu'on l'a écrit, qu'on va avoir des pandémies comme ça. Il y a plein de maladies nouvelles. 300 depuis 1940, qui sont liés à des zoonoses, hein, le passage d'un germe pathogène d'un animal à l'humain, de par nos activités. Donc, on savait, on n'a rien fait, et là, on est dans des situations, je jette pas la pierre aux actuels, parce que ça dure depuis 20 ans, cette comédie-là, hein. Pas de masque, pas de test, des services hospitaliers débordés. Faut quand même bien voir que mes collègues hospitaliers, j'en ai plein, des copains en urgence. Ben, on les maltraite depuis un certain temps, et particulièrement depuis un an. Ils sont en grève. Maintenant, tout repose sur eux. Il y a plein de choses très malsaines dans cette histoire-là. Et
Donc,
d'ailleurs, je
si tu
terminerai
veux bien.
là-dessus, si tu veux, Valentin, c'est que ce qui m'intéresse le plus, c'est pourquoi, dans la réaction à la pandémie, il y a des pays qui s'en sortent infiniment mieux que d'autres.
C'est une question. Est-ce que peut-être que tu auras des éléments de réponse? Ce qui m'a interpellé, c'est, et j'ai tendance à être d'accord avec ça, c'est la polémique scientifique et peut-être malsaine. Le débat scientifique, lui, est sain. Et là, tu viens de dire que le domaine scientifique avait déjà prévenu de
Ah oui.
l'émergence de possibles de nouveaux virus.
Depuis 2003, on l'a écrit et vous lisez un rapport qui est national. C'est le rapport du Comité national consultatif d'éthique. Hein. Ça sort tous les ans. C'est 2009. Il raconte exactement ce qui est en train de se passer. Mais ça fait un bout de temps qu'on alerte le monde politique, mais on n'a jamais écouté là-dessus. Hein. Sans des masques, attendez, ça fait 20 ans. Pourquoi ça s'est infiniment mieux passé à Taïwan? 5 morts, 23 millions d'habitants. Il y a moins de morts à Taïwan que toute la Guadeloupe et la Martinique. Attends, on se fout du monde. Bah parce que depuis le début, ils savaient que ça pouvait arriver. L'aéroport de Taipei est fermé le lendemain. On a mis 100 jours, 100 jours, nous, hein, à limiter les... Vous vous rendez compte que des avions ont quitté Wuhan 3 jours après le démarrage de l'épidémie pour se poser à Milan, pour se poser à Singapour, ben on voit le résultat. Donc c'est là que vous, au niveau de l'outre-mer, il est évident que vous avez une protection fantastique qui est justement un certain isolement. Donc on va isoler, comment on fait pour revenir après? Parce que vous ne pouvez pas exister non plus sur des relations régulières avec la métropole, c'est bien d'accord, bien sûr, au niveau de plein de choses. Puis ça relance toutes les questions. Est-ce que vous seriez autonome en alimentaire? Vous devriez l'être, hein, ça c'est clair pour moi. Hein. Et puis, des habitudes de fou, quand on voit que le fruit le plus mangé en Calédonie, c'est la pomme, on se fout du monde. On se fout du monde.
Alors, justement, je sais que tu as présidé aussi le conseil scientifique de l'Agence française pour la biodiversité. C'était sous le mandat de Ségolène Royal, si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux définir, parce que biodiversité, c'est un terme qui me semble qu'on entend beaucoup, mais oui, qui parfois, c'est devenu un mot un peu valise, biodiversité, qui veut tout dire et tout, à tout et son contraire. Ah, est-ce que Gilles, toi, tu as qu'est-ce que c'est pour toi la biodiversité? Est-ce que tu peux nous éclairer?
Biodiversité, c'est le vivant, hein, si vous voulez un mot aussi, mais non, le vivant. En fait, ce mot est inventé, biodiversity en anglais, biodiversité, en 1985, par une école de pensée d'écologues aux États-Unis, qui sont les premiers écologues de la conservation. Comment ça dire, il faut conserver la nature, la protéger. Donc, biodiversité. Alors, si je la définis officiellement, c'est effectivement toute la diversité génétique, biologique, depuis l'être vivant jusqu'à l'écosystème. Hein. Donc, les bactéries, les protistes, hein, les grosses cellules à noyau comme les microalgues marines ou les levures, par exemple, les champignons, les plantes et les animaux. Et l'humain est dedans. Si on veut et moi, ma définition, c'est l'ensemble de toutes les relations établies par tous les êtres vivants entre eux et avec leur environnement. Et la plus simple, ce que j'avais écrit dans ma leçon inaugurale au Collège de France, c'est la fraction vivante de la nature. Voilà, tout simplement. Il y a une nature, quand la Terre se forme, hein, l'océan se forme, la Terre se refroidit, il y a du vent, il y a des marées, il y a des falaises, il y a des volcans, des tremblements de terre, des séismes, mais il n'y a pas de vivant. Le vivant commence le jour où la première cellule vivante se prépare dans l'océan, venue d'une chimie qu'il y avait là avant, et se divise. Voilà, ce jour-là commence la biodiversité. Donc, c'est la partie vivante de la nature. Et simplement, ce que je rappelle souvent, c'est que l'humain n'est pas à côté, il est dedans. Qu'est-ce que nous sommes ici tous les deux en train de discuter, là, Valentin, et avec nos amis qui nous écoutent? Nous sommes de l'eau, 2/3 de flotte, 3/4 chez un bébé humain à la naissance. Nous sommes des cellules, comme celles de l'océan. Nous sommes des bactéries autant que de cellules humaines. Et nous sommes aussi du sodium, du chlorure, du potassium, comme l'océan, en fait. Ça veut dire que l'humain est dedans. Et qu'est-ce que nous mangeons? Que du vivant. Et avec qui nous coopérons? Qu'avec du vivant. Et pour clore sur cet aspect-là, il faut bien voir qu'on partage en ADN, en commun, en génétique de base, 1/3 de nos gènes avec le plancton de l'océan, les 2/3 avec une mouche, 60% avec une banane. Voilà, c'est tout, que vous produisez à la Guadeloupe et à la Martinique. Donc, qu'on arrête, excusez le terme, ces conneries, où on croit que l'humain est sorti du système, il s'en est sorti, et c'est parce qu'il s'en est sorti qu'aujourd'hui, on a ces gros désordres-là. L'humain est un corrupteur d'harmonie. On a cassé l'harmonie, on a cassé les équilibres. Et puis, on arrive à ces problèmes actuels. Donc, la biodiversité, c'est le vivant qui nous entoure. Et dedans, pas à côté, il y a l'humain.
Ok, super. Il y a plein d'éléments sur lesquels je voudrais qu'on revienne. Mais je sais que tu parles aussi de géodiversité.
Oui, bien sûr.
Est-ce que tu peux m'éclairer, c'est quoi la différence entre la biodiversité et la géodiversité?
Très simple. Quand la Terre se forme, donc c'est un fragment de soleil qui va se refroidir, donc les roches vont refroidir puis se développer, l'océan va se former avec des apports de météorites qui amènent de l'eau sur la Terre. La Terre n'avait pratiquement pas d'eau au début. Et la géodiversité, c'est la diversité de tout ce qui est minéral sur la Terre. Un quartz, une pépite d'or, un morceau de terrain en Guadeloupe, c'est tout ça la géodiversité. Un volcan, la Terre elle-même sans vivant. Et sur la géodiversité, qui était là avant, va venir s'installer la biodiversité. Et d'ailleurs, il y a un très joli auteur américain qui est aussi un fabuleux guitariste, qui s'appelle Bernie Krause. Il jouait avec Jimi Hendrix alors, comme guitariste. Hein. Et qu'est-ce qu'il nous dit, Bernie Krause? Il s'intéresse aux sons de la nature, les sons. Il dit, au début de la Terre était effectivement une géophonie, un volcan qui crache. Les vagues sur la plage de Grandanse, en Guadeloupe, ça c'est la géophonie, une falaise qui s'écroule. Puis après démarre la biophonie, des sons de la vie, une cellule qui se divise, un oiseau qui crie, ou bien un crabe qui grimpe sur du sable. Et après, tout ça va arriver la phonie qui est liée à l'humain, l'anthropophonie. Et aujourd'hui, le drame, c'est que nous avons des endroits sur la Terre où il n'y a plus que ça. Au sein d'une grande ville, il n'y a que des voitures, des pompiers, une voiture de police, des humains qui braillent, de la musique. Ça, effectivement, c'est la phonie de l'humain. Ce qui veut dire que si on a oublié tout le reste de la géophonie et la biophonie. Donc voilà, la géodiversité, c'est la diversité de tout ce qui est vivant avant que la vie n'apparaisse, et aujourd'hui avec la vie aussi, mais qui n'est pas vivant.
Ok, j'entends d'ailleurs, anecdotique, je crois qu'il y a les sismographes dans le monde entier ont enregistré des vibrations moindres, en fait, depuis que moitié de l'humanité est confinée. Donc c'est le bruit de la Terre, quelque part, qui a diminué.
En fait, ils étaient toujours là, mais on ne les entendait pas. Hein. C'est comme le retour du vivant en Guadeloupe, en Martinique, où il y a les pélicans qui sont au centre de la ville. On n'a plus de produits, quoi. Hein. Les oiseaux ont changé. Moi, j'ai vu au centre de Santiago du Chili des condors, des pumas au centre de la ville. On a vu des canards à Paris devant la Comédie Française. Partout, hein, des sangliers en pleine ville, des grands cerfs l'autre jour au centre de Bordeaux. Donc, en fait, ils sont là, mais on ne les voit pas. Mais surtout, quand on n'est plus là, ben, ils s'installent, hein, ça c'est sûr.
J'entends. Je vais relever le commentaire de Nicolas Méron, ici, qui nous écrit sur Facebook, et qui dit « Nous apprenons tout petit à lire, écrire, compter, dessiner, chanter. Apprendre le fonctionnement du système Terre ne serait-il pas aussi, voire plus important ?»
Je suis d'accord, Nicolas, bien sûr, évidemment. Tu sais, en ce moment, je me suis beaucoup battu parce qu'on vit… Là, c'est ce gouvernement-là que j'attaque là-dessus, par contre. Hein. Ils sont en train de nous tuer. L'enseignement des sciences de la vie et de la terre, hein, la géodiversité et la biodiversité, parce que ça coûte trop cher. Il faut faire des expériences, il faut emmener les gamins voir une falaise, évidemment, voir un fossile, hein, ou ramasser une fleur.
Ouais, parce que maintenant, comme on vit tous en ville…
Bien sûr, c'est dramatique parce que on a besoin, Nicolas, de deux choses. Des connaissances, bien sûr. Il faut commencer à l'école maternelle, hein, jusqu'à l'école, l'université, l'école nationale d'administration, ils ne savent même pas qu'ils sont faits de bactéries, on ne leur a pas dit. Donc ça, c'est le polytechnicien, c'est pareil. Comment est-ce qu'on arrive à remettre tout ça en place? Et l'éducation, vous avez raison, est totalement fondamentale dans tout ça. Hein. Et là, ils sont en train, après la seconde, ce sera maths, physique ou lettres. C'est une hérésie, une hérésie. Et c'est vrai que, comme tout ce que vous dites sur dessiner, moi, je suis allé à Chauvet, je pleure devant des dessins de 37 000 ans ou à Lascaux, 20 000 ans. Donc, l'humain, c'est ça, c'est le dessin, l'art, la création, la créativité, les relations art et science aussi. Et donc, enseigner ce qu'est la symphonie de la Terre, hein, c'est aussi fondamental. Et ça, on l'a oublié, on ne le fait pas.
Parce que Gilles, tu le disais au début de notre pause café, même les comités scientifiques pour conseiller le gouvernement, tu recommanderais même qu'il y ait des philosophes qui prennent part à cet exercice et des sociologues, etc. Donc de prendre l'humain dans son…
On n'aurait pas confiné comme ça du tout, c'est évident. Aujourd'hui, on se pose la question, il y a des papiers scientifiques qui sortent, là, il y a un papier aux États-Unis publié hier soir, c'est un mathématicien, le mec qui démontre qu'avec ou sans confinement, c'est les mêmes résultats. Il doit conclure à un moment à ces 1000 morts pour 1 million et 1001 morts de l'autre côté. Alors, quand on voit comment on va massacrer toute l'économie, en grande partie, et beaucoup de nos jeunes, hein, tous nos jeunes, je ne sais pas ce qu'ils vont devenir, on leur fait une dette gigantesque, gigantesque. Alors, est-ce qu'il faut renflouer les compagnies aériennes? Moi, je me pose vraiment la question. Donc, c'est là que, ben, il y aurait eu un peu de sociologie ou d'anthropologie, ça aurait été pas mal. Il faut des médecins, évidemment, parce que qu'est-ce qu'on a fait? Il faut être sérieux. Hein. Pourquoi on a fait ça? Parce que nos hôpitaux, par imprévoyance, et ce n'est pas de leur faute à eux, hein, c'est par la faute du système, étaient engorgés. On aurait eu des hôpitaux comme en Allemagne. Les Allemands s'en sortent infiniment mieux que nous. Ils avaient 4 fois plus de lits que nous. Hein. Ils avaient des masques, ils avaient des tests, parce que l'État les a préparés à cela. Nous, ça fait un bout de temps qu'ils demandent, ce n'est pas de leur faute à eux. Hein. Donc du coup, pour éviter ce drame des gens qui ne pouvaient pas tous aller à l'hôpital, qui ne peuvent pas être soignés, on a confiné. Mais il faut payer le prix aussi maintenant au niveau des dégâts économiques qui vont être faits. Et c'est là, Valentin, que pour moi, la vraie question, c'est quid après? Quand le président Macron a dit, vous vous souvenez, c'était le 16 mars, il a dit, le jour d'après, ne sera pas un retour au jour d'avant. Alors moi, en écologue, magique, magnifique. Mais quand j'écoute le MEDEF aujourd'hui, ou quand j'écoute effectivement renflouer les compagnies aériennes, je suis désolé. Je suis désolé. Si on repart comme avant, 20 000 avions sur le ciel français, 120 000 dans le monde, ben ça, c'est pas sustainable. Donc, comment on fait? Je suis pas contre un trafic aérien nul. C'est pas ça que je dis. Je dis simplement qu'on peut pas continuer comme ça. Là, on vend des billets d'avion à 10 euros. Ben, je suis désolé. Ça, c'est pas possible. Pareil pour les pesticides, hein. Le jour où on paiera correctement nos produits agricoles, le monde agricole arrêtera les pesticides parce qu'il sera rémunéré décemment par rapport au travail qu'ils produisent. Et c'est pareil pour le travail d'infirmière, pour le travail de médecin. On ne les considère pas, ces gens-là.
Justement, je pense qu'il y a un an, tu as dû faire une interview où tu parlais que l'homme est dans une démarche pour maximiser sa richesse, ses profits, alors que la nature, elle, dans son fonctionnement, puis tu nous l'as expliqué, quelque part, on est la nature, on vient de la nature. Il n'y a aucune distinction à faire. Non, la nature est en nous. Et la nature, par contre, si on observe à des milliards d'années, des millions d'années d'évolution,
à 4 milliards d'années, ouais. La vie. La nature a 4-6 sur la Terre et la vie un peu moins de 4.
C'est 3,8, je pense, la vie. Mais du coup, elle optimise. La nature, tu le dis, Gilles, la nature a une approche qui est beaucoup plus harmonieuse et elle fait les choses avec parcimonie, dans le but d'optimiser.
Ouais. Ouais. Quand on voit une libellule, hein, il y en a des jolies chez vous, en Guadeloupe, voire Montréal aussi. Hein. Une libellule, elle vole à presque 100 km/h avec 2 watts. Elle voit à 360 degrés. Moi, je ne vois pas ce qu'il y a derrière moi là. Elle voit 300 images à la seconde, elle a 9 techniques de vol et elle encaisse en accélération 30G. Allez à Montréal là, ou bien en Guadeloupe, sur le manège le plus terrible, là, vous payez 10 euros, on vous centrifuge à 5 ou 6G, vous vomissez votre 4 heures. Hein. Elle encaisse 30G. Comment elle fait, Valentin? Comment elle fait? C'est là qu'est le problème. On a un irrespect pour ça. On s'en fout. Il n'y a que nous qui sommes importants. D'un chien, mais si on ne comprend pas comment elle fait, on ne s'en sortira pas. Ce qui veut dire que, où on sauve l'ensemble du système vivant, comment voulez-vous imaginer une agriculture digne de ce nom en ayant tué les sols? Vous avez vécu un drame aux Antilles françaises. Hein.
C'est vrai, le chlordécone.
Le chlordécone, mais vous vous rendez compte que pour gagner quelques centimes sur le prix du kilo de banane, on a massacré nos sols, nos rivières, notre littoral, pour combien de temps? Cette irresponsabilité-là, ce monde irréfléchi qu'on ne peut pas continuer à développer. Sinon, ce n'est pas possible, parce que qui va payer? Ben, c'est nos enfants. Ben, c'est un peu compliqué quand même. Hein. Donc, cette économie-là, il faut de l'économie, mais pas celle-là. Il faut une économie, en fait, qui soit capable de garder notre capital. Et je dis souvent, cette immédiateté de la réponse, elle est catastrophique. Chacun doit s'arrêter, réfléchir. Le monde agricole en plein, évidemment. Moi, je suis un grand défenseur du monde agricole, ça c'est évident, absolument. Mais comment on fait? C'est pas au prix d'avoir tué tous les sols. Demain, on ne nourrira pas les gens si on détruit tous les sols. Tout le monde le sait, ça. Donc, effectivement, peut-être accepter de payer un peu plus cher ce qu'on mange, ça c'est clair. Le low cost en matière d'alimentation, c'est une énorme connerie, ça c'est clair. Pareil pour les avions. Hein. Les avions à 20 euros ou 100 euros, c'est terminé, c'est tout.
Effectivement. Bon, d'ailleurs, dites-nous en commentaire, que vous soyez sur Facebook ou sur YouTube, ce que vous en pensez. N'hésitez pas à commenter. Jean-Jacques French et moi, on regarde le fil de commentaires en permanence pour faire remonter vos questions. D'ailleurs, je vois, il y a Yolande ici qui dit « Allons-nous arrêter la mondialisation dans la fabrication des produits ?»
C'est une très bonne question, Yolande. Moi, je voudrais qu'on le fasse. On arrête de délocaliser, par exemple, tu vois. C'est-à-dire que allez, je vais en Chine. Alors, regardez, par exemple, ça des masques. C'est la Chine qui a le problème. Hein, et c'est eux qui font les masques. C'est quand même pas triste. Hein. Il n'y a pas d'intention. Attention, je ne suis pas du tout contre les Chinois là-dessus, mais ça s'est passé comme ça. Le nombre de produits dont nous dépendons au niveau alimentaire, aussi, bien sûr, au niveau de la fabrication des textiles ou plein de choses. Donc, la mondialisation a été une catastrophe parce qu'elle a amené justement ces vols intercontinentaux en quantité incroyable partout. Franchement, quand vous payez un billet d'avion 20 ou 30 euros, on sait bien que ce n'est pas son prix. Hein? Quel est l'impact sur l'environnement? Comment on fait? Et ils nous disent aujourd'hui, ben non, de toute façon, si vous nous obligez à avoir que 2 passagers par rangée ou 3, on ne pourra pas continuer. Ben, ce n'est pas possible. Alors, Par contre, je suis très conscient pour vous, là où vous vivez, vous êtes français et comme moi, c'est clair, hein, vous avez besoin de bouger, mais peut-être moins souvent que ce qu'on fait aujourd'hui. On paiera un peu plus son billet, on viendra une seule fois, et puis on sera heureux quand même, et on n'aura pas massacré l'environnement comme on le fait aujourd'hui.
Bien sûr.
Donc, j'ai vu qu'un de vos grands drames en ce moment, c'est les locations de voitures. Chez Jean-Jacques, il me rappelle quand je suis allé vous voir il y a 2 mois, là, il y avait plein de gens qui étaient loués de voitures. Je comprends, hein. Et ben, ça va forcément baisser, c'est évident. Pas continuer à ce rythme-là d'avions qui arrivent, qui débarquent des gens, c'est pas possible. Mais comment on le fait, dans quelles considérations? Et vous devez continuer à être rémunéré de quelle façon? C'est ça qu'il faut travailler. Et vous, sur les îles, vous avez un avantage, c'est que vous êtes dans un milieu qui est fini. Et je vous dirai une chose, c'est mon conseil essentiel, hein. Soyez-vous entre vos mains, ayez votre destin. Ne laissez pas les gens qui viennent décider de votre destin. C'est à vous de décider du nombre d'hôtels, du nombre de liaisons aériennes, du transport que vous allez faire, de l'organisation générale. Sinon, c'est très simple, hein. On appelle ça la tragédie des communs. Ça va s'amplifier. Et un jour, on n'ira plus chez vous. Parce que ça sera moche. Et ça sera vraiment minable. Et c'est là que, quelque part, prenez ça en main. Votre destin, c'est à vous de le prendre. Ce n'est pas à Paris de prendre en main. C'est vraiment à vous.
Je te remercie, Gilles, pour ça. Effectivement, aujourd'hui, d'ailleurs, c'est la 20e Pause Café. Et c'est un sujet qui revient régulièrement dès qu'on parle de la Guadeloupe ou de la Caraïbe en général. C'est d'être capable de faire un projet. Il y a cette phrase qui dit « penser global, agir local ». Oui, et oui. Quelque part, avec Dominique Vénéré, elle a mis en lumière l'idée de « faut aussi penser local pour observer notre environnement et ce que notre environnement propose et met à notre disposition pour justement créer un projet, un plan, une vision pour le territoire caribéen, guadeloupéen, martiniquais, etc. D'ailleurs, tu parlais de l'exemple de la libellule que je trouve fascinant, de regarder comment la nature fonctionne et de s'en inspirer pour d'être capable de faire cette preuve d'humilité comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser que demain, pour la Pause Café, on reçoit avec l'effet papillon Hugo Bachelier pour parler justement de ce 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Oui. Qu'est-ce que la nature peut nous apprendre avec ce qu'on appelle le biomimétisme. Donc ça va être demain.
Hugo est au Cénébios, hein, donc, oui. Dont j'ai été le président, et je vais reprendre la présidence là dans quelques mois.
Ah, bah, super. Mais, du coup, on va recevoir Hugo que tu connais du coup demain. Et d'ailleurs, il y a l'effet papillon ici qui pose une question. Cette crise du Covid-19 ne serait-elle pas juste une petite gifle bienveillante de la nature pour donner le temps de regarder en face les risques liés au dérèglement climatique et la perte de biodiversité, pour nous inviter à inventer un nouveau modèle de développement?
Je suis tout à fait d'accord, je ne sais pas si c'est une femme ou un homme qui a écrit ça, mais je suis entièrement d'accord en vous disant une chose. On me dit que c'est une vengeance divine, une revanche de la nature, pour un scientifique écologue. C'est une alerte. La gifle, c'est vrai qu'elle n'est pas si méchante que ça, parce que ça va faire peut-être, je ne sais pas, on va arriver à quelques centaines de milliers de morts, gros maxi. Hein. Il y a un siècle, c'était entre 50 et 100 millions de morts, hein, la grippe espagnole. Les pestes noires, c'était la moitié des humains quand on était sur la Terre, un demi-milliard, vous vous rendez compte. Hein. Mais de grâce, ne repartons pas comme avant. Et c'est ça mon combat aujourd'hui avec vous, hein, et dans les îles. Plein de choses intéressantes à faire. Hein. Gilles et la Guyane, hein, tous les territoires outre-mer, ultramarins, on a vraiment ça à prendre en considération, en maintenant un niveau raisonnable de relations aériennes, c'est évident, il ne faut pas arrêter là. Alors qu'en France, c'est terminé. Hein. Je suis désolé, pour faire Bordeaux-Paris, ou bien Rennes-Paris, ou Strasbourg-Paris, le train marche très bien. Donc, c'est important de réfléchir à cela, mais de façon mesurée. Comment on fait? On paye au juste prix. Ce qui a un impact sur l'environnement, les externalités, hein, on ne peut pas imaginer qu'on va payer des trucs rien du tout et puis qu'on va tous profiter comme ça. On est en train d'assassiner nos enfants et le monde de demain. Donc, entièrement d'accord, si on ne fait rien, j'ai dit il y a quelque temps, qu'est-ce qu'il a tué ce virus? Des gens âgés, plus de 80 ans la moyenne, hein, plus d'hommes, des gens 83% en surcharge pondérale, des gros, des gens qui étaient hypertendus, des gens qui effectivement avaient des désordres divers et variés, issus de la malbouffe. Donc, je vous dirais deux choses. On a oublié une chose. Mourir à 80 ans, je suis désolé, c'est normal chez l'humain. On peut vivre un peu depuis un peu plus longtemps, mais c'est comme ça. 80 ans, ce n'est pas anormal. C'est la moyenne en France. Hein. Et puis, deuxièmement, surtout, ce qu'on a oublié aujourd'hui, si vous voulez, c'est qu'on ne peut pas, au nom effectivement d'un système où on prolongerait indéfiniment la vie, qu'on ne pourra pas faire, on pourra en reparler, détruire la liberté de travail de nos jeunes. Ce n'est pas possible. Et pour répondre à notre ami qui a dit ça, oui, il ou elle a raison, c'est que si demain on ne fait rien, imagine le prochain virus qui tue les jeunes. On verra le résultat.
C'est... Ouais, c'est... En plus, on l'a vu avec le docteur Frédéric Costa, que à quel point l'alimentation est responsable de 90% des maladies chroniques, en fait.
Bien sûr.
Donc, clairement, il y a quelque chose. Il y a un sujet que tu abordes, Gilles, qui dans l'esprit me passionne, et j'aimerais qu'on aille un peu plus là-dedans. C'est tu parles de la notion de service des écosystèmes, de la nature. Donc, à quel point la nature, en fait, fonctionne par service, et tu mentionnes l'idée de payer le juste prix et pas juste de payer un montant en euros ou en dollars pour quelque chose, mais de prendre conscience de quel est le vrai service que l'écosystème, que la nature a. Qu'est-ce que tu entends par là, cette notion de service de la nature ?
C'est une notion humaine. La nature, elle est en dehors de ça, elle existe. Alors, il faut qu'on arrête tous collectivement de la prendre comme un truc qu'on va pomper en permanence. C'est effectivement un réservoir, une ressource, un gisement de ressources pour l'humain. Alors, vivante et non vivante, on revient à géodiversité et biodiversité. Le problème de la géodiversité, quand on a détruit quelque chose, c'est que ça ne se reconstruit pas. La biodiversité se reproduit. Ça, c'est super intéressant. Mais, comme on surexploite, on arrive
au... C'est dégénératif, en fait.
Ça veut dire que, par exemple, je prends une baie de Guadeloupe ou de Martinique, elle peut nous produire tant de tonnes de poissons chaque année par le renouvellement. Si on en prend une partie en faisant attention, c'est parfait, ça peut durer très très longtemps. Alors, c'était pas en Guadeloupe ou en Martinique, mais c'était à Terre-Neuve, pas très loin de Montréal, tu vois, Newfoundland, où on avait des stocks de morue, 500 années, 500 de pêche à la morue, d'Espagnols, de Portugais, de Catalans, de Français, de Bretons, de Normands, d'Islandais, d'Irlandais. On allait pêcher la morue sur les bancs de Terre-Neuve, relisez Pierre Loti. 500 années de travail très dur, mais on n'a jamais, jamais, jamais mis le stock en danger. Quelques bateaux, moins de 10, entre 1988 et 90, donc s'il y a 30 ans, on détruit. Non pas la morue, c'est ça que les écolos, je suis désolé, elle n'a pas disparu. On ne l'a pas éteinte. On a détruit le stock de Terre-Neuve. Et ça prenait le même chemin en Méditerranée avec le thon rouge. Et là, sur les poissons exploités en Martinique et Guadeloupe, c'est pareil. On prend trop de poissons sur le corail. Qu'est-ce qui reste comme beau corail chez vous ? 1% peut-être. Donc, je suis désolé. Je vais en Calédonie. Je ne vais pas à La Réunion non plus. Donc, il y en a à Mayotte. Donc, ça veut dire que c'est là que, même pour le vivant, comme on surexploite, on arrive à ceci. Donc, c'est très clair aujourd'hui que les services rendus, c'est ce que le système Terre, vivant et non vivant, non vivant et vivant, peut offrir à l'humanité. Mais dans des mesures. Donc, ne pas dépasser des niveaux d'exploitation, ça c'est clair, sur les ressources vivantes, ne pas exploiter plus que ce que la nature reproduit chaque année, un service offert à l'humanité. Mais c'est aussi, par exemple, la purification de l'eau. La nature, un sol sans pesticides, est un fabuleux système avec des milliards de bactéries et de petits micro-organismes. Un arbre, c'est beaucoup plus de micro-organismes que ce qu'on voit d'un arbre. Il n'est jamais seul. C'est tout ça qu'on a perdu, en fait. C'est que l'homme va les prendre dans la nature et qu'il va utiliser et qu'il se fait gratuitement, croit-on. Et le meilleur exemple, pour terminer, Valentin, c'est le miel et les abeilles. En France, 40 000 tonnes de miel il y a 30 ans. 17 aujourd'hui. Les abeilles se meurent, elles sont tuées par nos insecticides, nos pesticides qui les désorientent et qui les tuent. Alors que le miel est un fabuleux produit. Aujourd'hui, on vend dans nos supermarchés des substances qu'on appelle miel. C'est pas du miel,
c'est du sucre.
Un grain de pollen là-dedans, arrêtons. Ça, on devrait l'interdire, évidemment. Payons le miel à son juste prix. Et pour ça, on ne le fera pas sur le monde agricole. Donc, vous voyez, les services rendus, c'est ce que l'humain va les prendre dans la nature. Mais le service est rendu tant qu'on ne l'a pas détruit. Et on revient à ce qu'on dit souvent, je termine là-dessus. On me dit, il y a la résilience de la nature. Ouais. C'est quoi la résilience ? C'est le fait qu'après un trauma profond, une agression, vous revenez à quelque chose qui ressemblait plus ou moins à ce à quoi vous étiez auparavant. Une dépression nerveuse, par exemple. On va en avoir là avec tous les jeunes qui vont avoir des soucis. Et les vieux aussi, d'ailleurs. On va avoir des problèmes de gens isolés, on va avoir des problèmes de massacres divers et variés. Parce que si on continue comme ça, ça va se finir par des aspects militaires hein, qu'on n'arrivera pas à gérer. La crise écologique que l'on vit, c'est une crise globale de tout. Non, je ne pense pas qu'il y aura des crises demain sans aspect écologique dedans. Donc, c'est ça qu'il faut qu'on conserve. Donc, aujourd'hui, le service rendu, c'est quelque chose que la nature a produit, sans dessein particulièrement. L'humain s'en sert, mais dans des conditions raisonnables de renouvelabilité. Voilà, c'est ça les services rendus par les écosystèmes. Et je finis sur les abeilles. Si on les perd, les abeilles, et tous les pollinisateurs, il n'y a pas que les abeilles domestiques, hein, c'est au moins 200 milliards, Valentin, d'euros par an de perdus.
Par an.
Par an, que la manœuvre humaine des femmes, celles qui font le boulot, sera là pour féconder toutes nos fleurs, donc nos légumes et nos fruits.
C'est en Chine, je pense que c'est ce qui s'est passé. Ils ont détruit exterminé tous les pollinisateurs et maintenant c'est des femmes qui sont.
Le coût de la manœuvre et de l'emploi.
Et oui. Ouais, donc, quelque part, cette croyance que on perd de l'argent en favorisant la biodiversité, l'écologie, etc., c'est déjà un paradigme qui fait pas sens. Mais je te remercie de parler des services. Que la nature nous donne, je pense aussi à l'océan qu'on croit comme étant juste de l'eau, mais en fait c'est vivant. Il y a énormément de et ça l'océan produit quoi. J'ai une chance, c'est 50% de l'oxygène et ouais. Capture 25% du dioxyde de carbone.
Tout à fait.
Donc
tu as raison. Alors pour revenir à l'océan, bon c'est absolument évident, mais la question c'est que si on tue l'harmonie de l'équilibre entre l'humain et le reste, avec deux grands problèmes actuels que je reconnais, hein, c'est la démographie d'un côté, on peut pas en parler, dans nos îles en particulier, mais ça baisse un peu, mais ça a été très fort à une époque. Et deuxièmement, c'est les ressources. Donc les ressources qui sont finies, on est raisonnable dans l'exploitation. Celles qui sont renouvelables, eh bien, on ne dépasse pas le seuil de renouvelabilité annuelle. On vit au-dessus de nos moyens, en fait. Hein. Et c'est vrai que l'humanité a été une catastrophe dans sa non-capacité à régler sa population. Hein. 2 milliards d'humains en 1945, 8 aujourd'hui, on arrive à 8. Là, hein. Les animaux sauvages ou les plantes ne font pas ça. Si j'ai trop de gazelles, il y aura plus de lions, et puis il n'y aura pas plus de lions parce qu'il n'y aura pas assez de gazelles à manger, il y a des équilibres. Nous, on a tout cassé. On a fait des bébés à l'infini dans les années 50, 60, le baby boom. Hein. Parce que maintenant, on accuse maintenant les femmes en Afrique. Ouais, c'est la faute des filles au Niger si on est dans le problème aujourd'hui. Parce qu'elles ont 8 enfants par femme. Combien on avait d'enfants en France en 1952, 53, 54? On n'avait que des familles de 9, 10 enfants. Donc vous voyez, c'est là que finalement, cette démesure-là, on ne peut pas continuer. Et surtout, c'est grave aujourd'hui, c'est que chaque enfant qui naît aujourd'hui, quel monde on lui a préparé?
C'est ça.
On va pas les arranger. Hein.
D'ailleurs, si tu es d'accord, je vais prendre. Il y a quelques questions qui viennent d'arriver. Sur YouTube, on a Claude qui nous dit : ne pensez-vous pas que l'augmentation exponentielle de la population mondiale soit responsable en partie du déséquilibre climatique actuel ?
Bien sûr, c'est clair. Hein, ça, c'est clair. Alors, la réponse que je ferai par contre à ce monsieur, c'est que on ne sait pas faire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, à part la Chine, hein, il y a 40 ans qui a fait sa loi de l'enfant unique.
Exact.
C'est une dictature. Ils ont empêché la naissance, on a calculé, de 1,5 milliard de bébés. C'est-à-dire que sans les mesures chinoises, on serait aujourd'hui 8,3 à peu près, 8,4 milliards d'humains sur la Terre. On est 7,9. Hein. Comment est-ce qu'on gère ces questions-là? Ma réponse, elle est claire. C'est un problème de femmes, pas un problème de mecs. Hein. Remettons les filles à l'école. Chaque fois qu'on éduque une petite fille qui devient une jeune fille, eh ben, elle n'a pas envie d'avoir 10 mômes. Jamais. Il y a une très belle courbe dans le monde entier. Plus on éduque une femme, moins elle nous fait de baume. 1, 2, très bien, ouais.
Mais pas c'est 10. Quoi, il y a une corrélation inverse entre l'éducation et le. Ouais.
Bon, c'est un fantasme de mec de coller 10 enfants ou 18 enfants à une femme, ça n'existe pas. Donc c'est vrai que là, il y a un premier aspect là-dessus. Et puis on va résorber ça parce que je ne sais pas combien on va terminer. Hein. On va être 8, puis 9, peut-être 10, je ne sais pas, avant la fin.
Il me semble que. Il y aurait un plateau à peu près 10 milliards.
On va vers l'asymptote, ouais.
Ouais.
Alors après, la question, c'est est-ce qu'on peut lui donner à bouffer à 10 milliards? Oui, à condition de répartir les ressources qu'on ne fait pas aujourd'hui.
Oui, puis en plus, est-ce qu'on peut donner à manger à 10 milliards? Oui, à condition qu'on répartisse, mais aussi, on peut leur donner à manger, mais oui, pendant combien de temps? Il faut que, puisqu'on est dans un système qui est dégénératif quelque part, qui détruit. Tu as dit, on a tout cassé.
La pollution des sols par les pesticides, et puis deuxièmement, le climat qui va changer vite.
Mais oui.
On va impacter les ressources des pêches et les ressources agroalimentaire, c'est vrai, évidemment.
D'ailleurs, il y a l'effet papillon avec qui on organise le live de demain, justement, qui intervient ici et qui dit Tariq Chekchak, un de nos fidèles équipiers, dit en substance que viser un développement durable n'est plus suffisant à la vue de la dégradation des écosystèmes. Il faudrait viser une économie régénérative. Qu'en pensez-vous ?
Ça me va très bien. Moi, tant qu'on ne parle pas de décroissance, ça me va bien. Parce que le terme décroissance, en fait, il fait peur. Mm-hmm. Il fait croire aux gens qu'on veut revenir à la préhistoire. Ce n'est pas ça. Mais la croissance actuelle, on ne la continue pas. Donc, je suis entièrement d'accord, c'est une économie régénérative. Ça veut dire une économie dans laquelle on fait un certain profit pour créer de l'emploi.
Mm-hmm. Ouais.
Et pas au détriment du capital. On ne détruit pas la nature et on ne la surexploite pas. C'est ça la résultat. En fait. Bien sûr, oui.
Gilles, est-ce que tu penses qu'on maximise peut-être plus ou trop pour les profits et peut-être pas assez pour le bien-être ?
Et bien
quelque
sûr,
part, il y a une déconnexion entre les deux aujourd'hui.
Vous savez, il y a eu deux critères du progrès. C'était le PIB qui augmentait, le produit intérieur brut, qui aujourd'hui n'est absolument plus du tout un indicateur de bien-être. Une époque, dans les années 50, je pense que oui, les gens s'enrichissaient. Il y avait des niveaux de vie qui changeaient de papa, maman aux enfants. Le but, c'était qu'on ait des enfants plus heureux que nous. C'est fini, terminé, ça, complètement terminé. Hein. Et on est sur quelque chose de différent, en fait. Et puis surtout aussi, il y a la durée de vie. Donc, en gros, on a pris dans le 35 ans d'espérance de vie depuis 1860. Hein, c'est-à-dire qu'on vit 35 ans en moyenne, 81 ans chez les garçons en France, 84 chez les femmes. Et c'est l'âge auquel tue le coronavirus. C'est intéressant d'y revenir aussi. Hein. Alors, c'est intéressant parce que finalement, est-ce que ça augmente indéfiniment ? Non. On a augmenté pendant presque 100 ans, c'est fini. Depuis 10 ans, on n'augmente pas la durée de vie en moyenne. Et il n'y a pas de gens qui vivent de plus en plus vieux. Ce qu'on augmente, c'est le nombre de centenaires. C'est clair, ça c'est clair, de plus en plus. Sur les femmes surtout, parce que sur les garçons, en centenaire, c'est un quart les garçons. Aujourd'hui, à 100 ans, il reste un quart des garçons. À 110 en France, que des femmes. Il n'y a plus aucun garçon qui a passé 110 ans. Donc, est-ce que ça augmente vers 120 ? Non, c'est Jeanne Calment qui est le record du monde, toutes catégories confondues. Morte il y a 10 ans, elle décède 122 ans et 170 jours. Ça augmente pas. Notre vrai but aujourd'hui, c'est effectivement de peut-être vivre pour une plus grande partie de la population 80 ans, mais dans des bonnes conditions, pas Alzheimer,
mais oui.
Empoisonné par les pesticides, ou alors pas complètement incontinent. C'est ça la vraie question aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vois la différence garçon-fille qui s'amenuise en France. Hein, donc. Et ça veut dire que ce progrès-là, ben non, on est au taquet, en rendement agricole, en maïs, en banane, en pamplemousse, en pomme, on est au taquet partout. Donc aujourd'hui, comment on fait pour revenir un poil en arrière et, comme dit Tariq, notre ami, nous préparer un monde soutenable, pas durable. Hein. C'est ça qui est important aujourd'hui. L'effet papillon que vous évoquiez tout à l'heure.
Je te remercie, Gilles, c'est très intéressant. Ça me fait penser, on parle beaucoup quand on parle d'écologie ou de biodiversité, l'urgence de « ouais, il faut sauver la planète ». Mais tu disais tout à l'heure, la notion de service, quand on parle de la nature, en fait, c'est une notion qui est purement humaine.
Complètement.
Parce que la nature fait sans dessein, peut-être, sans…
Ah, clairement. La nature, de toute façon, la nature existait bien avant l'homme, elle sera là bien après. La biodiversité aussi, parce qu'on me dit « l'humain va détruire la vie », non. L'humain va fortement l'abîmer, c'est clair qu'on va partir, mais partiront avec nous les hippopotames, les girafes, les baleines, ou un peu avant nous, ça c'est possible. Mais les bactéries… Nos petits virus, nos petits coronavirus, il sera là bien après nous. Hein. Donc, ça veut dire qu'on est sur quelque chose dont on s'est extirpé au forceps en détruisant ce qui nous entourait. Et c'est là que Einstein avait raison quand il disait, en fait, comment voulez-vous résoudre nos problèmes avec les mêmes méthodologies qui les ont créés, en fait, quoi. Donc, le jour d'après, il ne faut pas que ce soit le jour d'avant, ça c'est absolument évident. Et arrêtons cette assertion, vous voulez sauver la planète. Alors, je vais être très clair, deux secondes, et péremptoire, elle s'en fout, la planète. Elle s'en fout qu'on soit dessus, ce n'est pas son problème. Par contre, ce qu'on veut essayer de sauver, dans nos îles en particulier aussi, c'est le bien-être de l'humain sur la planète. Et votre bien-être sur vos îles, il sera là tant que vous n'allez pas laisser venir trop de monde de l'extérieur. Moi, j'ai travaillé avec le maire de Sainte-Anne, qui est un copain, en Martinique. un million de visiteurs par an, mais c'est foutu, vous allez détruire l'intérêt de ce site. Donc c'est là que, comment on trouve la mesure? Et pour répondre à ce que disait Valentin, moi qui m'importe beaucoup, moi qui ai vécu très longtemps au Chili, on avait une maxime dans le développement chilien, un développement économique complètement libéral, sous le général Pinochet, c'était les Chicago Boys, hein, c'est tous ces gens-là qui étaient là, on a détruit la classe moyenne chilienne. Hein. C'était « cuando Chile crece, todos crecemos hein. ». Quand le Chili grandit, tous nous grandissons. Bah, malheureusement, ce n'est pas comme ça. Hein? Alors, c'est le cas du Chili, mais c'est pareil partout. Quand le Chili grandit, quelques-uns grandissent. Et c'est là que le coût social de nos problèmes actuels est terrible. Et ce libéralisme, il ne peut pas continuer comme ça. Il n'y a aucune espèce animale. Je prends le cas des femmes, que j'adore. Elles sont maltraitées. Regardez la maltraitance des femmes pendant le confinement. Ce n'est pas possible de continuer comme ça. Je ne connais aucune espèce animale qui maltraite ses femelles. Ça n'existe pas. C'est l'humain qui a inventé ça. Regardez aujourd'hui un petit gag que vous avez aussi en Guadeloupe et Martinique. Et à Montréal aussi, Valentin. Comme les routes sont libres, les mecs font des excès de vitesse. 180 à l'heure, 210, 230 à l'heure. Il n'y a aucune femme qui a fait ça. C'est que des mecs qui font ça. Il faut y réfléchir. Hein. Et dans les prisons, il y a 92% de mecs. Intéressant aussi. Pourquoi les femmes iraient payer des impôts pour garder en prison 92% de mecs? Il y a un problème quelque part. Comment on les a élevés, les garçons?
L'éducation, on y revient. Ah bah, d'ailleurs, on parlait de PIB tout à l'heure, à quel point aujourd'hui l'augmentation du PIB ne nous montre pas une augmentation du bien-être. D'ailleurs, je crois qu'au Bhoutan, et je pense qu'il y a Chantal ici qui commente et qui confirme, au Bhoutan, on parle du bonheur national brut, ouais. Et qui fait, je pense qu'il y a deux pays au monde ou trois.
Mais ils l'ont fait, mais ça n'a pas marché. C'est une belle idée. Hein. Ça reste en théorie, mais ils ont les mêmes problèmes. Ils ont des problèmes de partout. Aussi, leur panthère des neiges est en train de disparaître aujourd'hui, autant au Bhoutan qu'ailleurs. Je suis très proche du moine bouddhiste français, Ricard.
Oui.
Et c'est vrai que. Il est au Bhoutan hein, ou bien au Tibet et il me dit il y a les mêmes problèmes quoi. C'est vrai que c'est mieux hein, mais quand même la nature est détruite, les fleuves sont pollués. C'est pareil, eux ils ont un énorme problème, c'est que il faut vraiment maintenir la pression touristique à un niveau bas hein, sinon ils vont finir comme nos îles quoi.
J'entends. D'ailleurs sur YouTube il y a Amélie qui commente, y a-t-il de vrais experts ayant un tant soit peu d'influence pour reprendre les choses en main à grande échelle?
Ce que je dirais à Amélie, c'est que ce n'est pas notre boulot. Ça veut dire que nous, on est là pour éclairer des situations. Par exemple, je vais revenir au conseil scientifique actuel de l'État français là, sur le coronavirus. C'est bien d'avoir un conseil scientifique, c'est très important, on l'a dit. Mais ce n'est pas notre boulot. On n'est pas là pour prendre des décisions. On est là pour éclairer des gens qui vont les prendre. Parce que je comprends que quelquefois, il y a une décision à prendre qui ne peut pas être gérée uniquement par une question scientifique. Hein. Par exemple, comment je fais quand j'ai un hôpital, que j'ai 20 lits et que j'ai 23 personnes qui débarquent? Ce n'est pas de la science qui va trancher là-dessus. Hein. Donc, c'est là que souvent, il faut trouver autre chose. Donc, et par contre, où Amélie a entièrement raison, c'est qu'on ne les écoute pas suffisamment, ça c'est clair. Hein. Sur la pandémie, pourquoi ils s'en sortent beaucoup mieux à Taïwan ou en Corée? C'est parce que les scientifiques avaient été écoutés, ils savaient que ça allait arriver. Non, ça ne va pas arriver chez nous, ben voilà.
Et oui, on n'aime pas les vérités qui dérangent.
Il y a un lobbyisme de gens, si vous voulez, aujourd'hui, qui savent souvent le lobbyisme des pesticides. Ils savent qu'ils ont perdu, ils savent bien que dans 30 ans, il n'y en aura plus. Mais quand même, on continue à faire du pognon. Et ça, c'est l'irresponsabilité totale en détruisant nos sols. Hein, ça, moi, je suis désolé, je ne vois pas comment, étant agriculteur, je vais accepter de détruire mes sols. Hein. Il y a plein d'agricultures différentes. Il n'y a pas que du bio, il y a plein de choses super chouettes. Hein. De l'agroécologie intensive, parce que on a de moins en moins, on va pas augmenter indéfiniment les surfaces de production, sinon demain, j'aurai plus de forêts tropicales et j'aurai plus de zones humides, par exemple. Hein. Mais n'empêche qu'il faut faire différemment, c'est bien évident. Hein. Donc, il faut qu'on se batte. Hein. Quand on voit que 10% des humains possèdent 90% des richesses, ça, c'est tout sauf soutenable, évidemment, bien sûr.
C'est super intéressant de t'écouter, Jules. Ça se voit, tu es passionné, tu es aussi passionnant. Il nous reste juste quelques minutes, cette pause café passe, je vois pas le temps de défiler. Tu m'avais dit, le coronavirus, c'est 15 gènes.
Oui.
Et l'humain, c'est quoi? C'est entre 20 et 30
25 et 30 000, oui.
Entre 25 et 30 000.
Ça dépend des opérations, on dit 28 000, 25 000, mais c'est par là, oui.
Qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette situation qui nous arrive? Qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce petit virus? Comment en fait cette situation peut nous réveiller?
Ben pour moi, je dis, j'espère, hein, mais je suis un gros naïf comme tous les scientifiques et les écologues, j'espère que ça sera l'électrochoc collectif. En se disant, tout à l'heure, je ne sais plus qui a dit, c'est une
Gifle
petite.
bienveillante. Ouais.
Ouais, c'est vrai. Ce qui est très clair, c'est que c'est une alerte. On m'a dit, ce n'est pas la vengeance de Dieu. Je dis, non, non. C'est une alerte aujourd'hui. Comment 15 petits gènes qui sont aussi vieux que la vie sur la Terre? Parce que quand on a dit, ouais, mais vous comprenez, c'est un labo qui l'a inventé, il a des fragments de HIV, c'est totalement faux. En fait, c'est un virus qui est fait comme tous les virus. Il a le minimum vital pour exister. Donc, il y a forcément des séquences qui sont les mêmes pendant le minimum des fonctions vitales, hein, qui puissent se développer, se reproduire, se diversifier. Il est aussi vieux que la Terre. Le virus, il n'est ni méchant ni gentil, en fait, hein. Il est opportuniste. Merveilleusement, c'est un parasite. Et un parasite qui n'est pas opportuniste, il est foutu, hein. Donc, qu'est-ce qu'il a comme mission pour exister et pour se reproduire? Trouver un hôte chez lequel il a tourné les barrières pour s'installer chez lui. C'est ça la question. Et pourquoi nous, on a tant de gens infectés? Parce qu'il est infectieux, hein. Parce qu'on ne l'avait jamais rencontré. Pourquoi? Parce qu'il est né, pas au mois, pas cette année, il est né, je pense, durant l'été dernier en Chine, quelque part, avec des fragments de gènes de pangolin, un petit mammifère qui ne demande rien à personne, et de chauve-souris, c'est un virus de chauve-souris, ça c'est clair, ça c'est très nettement clair.
Les chauves-souris sont pleines de coronavirus.
Plein, plein, plein. Donc, ce qui devait pas se passer, c'est passé parce qu'on les met en promiscuité effroyable, et puis ce qui s'est passé et qui aurait dû rester confidentiel est parti partout, parce qu'on l'a distribué partout. Donc, qu'est-ce qui doit nous apprendre? L'humilité, hein, la fin de l'arrogance, ça c'est tellement. Et ça, surtout le garçon, plus que chez la fille, chez les humains. Hein. Encore une fois, c'est pas c'est l'arrogance qui nous fait rouler à 200 km/h. C'est pas autre chose que ça. Hein. C'est aussi, bien sûr, l'imprévoyance. Hein. Tout à l'heure, quelqu'un a dit, effectivement, comment est-ce qu'on fait? On n'est pas capable d'imaginer une culture de l'impact. Si je fais ça, il va se passer ça. Et troisièmement, c'est surtout aussi, bien sûr, la cupidité. On veut toujours plus. Donc, dans vos îles, gardez votre tourisme bien pensé, qui vous rémunère correctement, pas qui vous surrémunère, et surtout que tout le monde en bénéficie, pas que quelques-uns. Qu'on arrête de bouffer des pommes en Nouvelle-Calédonie, je suis désolé, ça n'a rien à foutre là, il y a des mangues excellentes, vous pareil, il y a des produits qu'on va pas, des huîtres de Marais d'Oléron ne doivent pas être bouffées, en fait, à Fort-de-France, c'est pas possible, quoi, ça c'est du délire, ce genre de truc-là. Hein. Donc, c'est. Dans cette humilité, c'est une façon de vivre différente. Et la saisonnalité, par exemple, ça c'est super important. Et puis surtout, beaucoup plus de coopération, de collaboration, d'entraide, de symbiose. Le vivant est beaucoup plus là-dessus que sur la compétition. Donc, je terminerai en disant, beaucoup plus de coopération que de compétition. Ouvrir massivement le débat aux femmes. Elles ont tellement à apporter.
Eh oui.
Aujourd'hui, on ne leur permet pas ça. Pourquoi est-ce qu'on dit aux filles, vous n'êtes pas bonnes en mathématiques? C'est archi faux! Voilà, c'est tout.
Je te remercie, Gilles, d'ailleurs. La majorité des personnes qui nous regardent en live depuis toute cette pause café, c'est vrai qu'il y a une belle énergie féminine, il y a une belle présence féminine. En majorité, ce sont des femmes qui nous suivent et qui résonnent quelque part avec l'intention qu'on a et qu'on amène avec ce live. Avant de se dire au revoir et à bientôt peut-être, est-ce que il y a un bouquin que tu lis, que tu as lu ou que tu aimerais partager simplement avec ceux qui nous écoutent et nous regardent? Moi, je regarde ici mon deuxième écran pour l'afficher.
Le livre qui m'a formé à l'époque, c'était un livre des années 60. Moi, j'avais donc, j'étais tout petit, j'avais 10, 12 ans, je commençais à m'éveiller. Moi, je savais qu'en petit garçon, à 8 ans, je serais un chercheur en biologie. Hein. J'avais une rêve, je voulais faire des venins de serpent et j'ai travaillé sur les migrations de saumon. Bon, c'est comme ça. Hein. Et ce livre s'appelle Silent Spring, le printemps silencieux de Rachel Carson. Très beau livre. Et au même moment, un livre écrit par Jean Dorst, qui à l'époque était le président du muséum que j'ai présidé bien après lui. C'était Le printemps silencieux. Donc, de Rachel Carson. Et puis, le bon Jean Dorst, c'était Avant que nature meure. Donc, le printemps silencieux et avant que nature meure, c'est vachement important. Et puis, aujourd'hui, ça a été le film pour moi de Kubrick, 2001, Odyssée de l'espace. Le bouquin de Barjavel, La nuit des temps. Relisez Barjavel. C'est génial. René Dumont, hein, dans les mouvements écologistes des années. Là, on avait de vrais candidats écolos que j'admirais beaucoup. Aujourd'hui, bon, j'ai du mal Ils se bouffonnaient entre eux. Bon, Nicolas Hulot a été un grand bonhomme. Je l'ai aidé, on a fait des choses, mais il est parti un peu dégoûté. Donc, oui, il y a des livres, il y a des films, il y a des. Voilà, c'est celui-là qui est très beau. Ouais. Il est en français, Le Printemps Silencieux. Relisez Avant que Nature meure. Et puis tout récemment, on a fait deux livres, nous, on fait de la pub pour la maison.
Bien sûr.
Ça s'appelle L'homme peut-il s'adapter à lui-même en 2012. Et le deuxième, là, il y a deux ans, en 2017, on a publié L'homme peut-il accepter ses limites. C'est vrai que les questions, elles sont là aujourd'hui. Et le deuxième, c'est L'homme peut-il accepter ses limites, qui est sorti beaucoup plus récemment. Les deux, c'est les mêmes auteurs. Alors, j'ai pas écrit ça tout seul, c'est avec d'autres. Hein. Mais à chaque fois, un grand médecin, un écologue, un sociologue, un personnage politique. C'est comme Jacques Delors qui a fait le premier, et c'était notre ami Chantal Journeau qui a fait le deuxième. Il y avait plein de gens super intéressants. Et c'est vrai que bah, il nous faut tout ça, parce qu'il nous faut des mathématiques, de la physique, de la chimie, de la biologie, de l'écologie, mais aussi de la sociologie, de l'anthropologie, et puis aussi de la philosophie. Moi, j'admire tellement des gens comme Edgar Morin, qui va avoir dans un peu d'un mois, il aura 99 ans. Alors, j'espère que le coronavirus va s'en aller, il ne va pas l'embêter. Hein.
On espère aussi qu'il nous préserve sa sagesse. Super, Gilles, mais merci beaucoup pour cet échange avec toi. C'était avec passionnant. J'aurais voulu que ça dure encore des heures. Je suis sûr qu'on pourrait parler infiniment de tous ces sujets. Donc, ce que je retiens ici, c'est que la biodiversité, c'est le vivant. Et quelque part, l'homme devrait se détacher de cette idée de maximiser et de s'inspirer peut-être plus de la nature qui est dans l'optimisation. Et qu'on remette quelque part l'essentiel, c'est le bien-être et non pas la richesse. Et pour finir, ce que tu nous as dit, qui était une conclusion parfaite, dans la nature, la coopération est bien, bien plus présente que la compétition.
Ça, on l'a vu quand on a fait para-océan, les micro-algues de l'océan, qui sont vieilles comme la vie sur la Terre, hein, y a infiniment plus de coopération que de compétition.
Super. Et donc ça, d'ailleurs, on va pouvoir aller peut-être même un peu plus loin encore dans le détail sur 3,8 milliards d'années de recherche et développement. Oui. Qu'est-ce que la nature peut nous apprendre avec ce qu'on appelle le biomimétisme. Et donc, ce sera Hugo Bachelier du Cibios qui va revenir demain pour une pause café.
Donc, et Tarek, qui connaît bien ça aussi.
Hein. Exactement, exactement. D'ailleurs, peut-être que Tarek sera là aussi pour interagir. On verra ça. Gilles, merci beaucoup, beaucoup. Je vous rappelle, pour tous ceux qui nous suivent, on revient tous les jours de la semaine à 11h. Notre objectif avec ce live, mais aussi Humans Link, c'est de favoriser l'entraide, la solidarité, pardon, et de construire les organisations dont l'humanité a besoin. Soyez humains, soyez exceptionnels. Merci à tous. Bonne journée.
Bravo.